Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 dans l'émission Au fond près du radiateur. Je vous rappelle qu'on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 du mat. Ce soir, émission assez chargée, on a des invités sur le plateau, on a pas mal de sujets à aborder, notamment des sujets assez vastes. Pour commencer, on va annoncer les chroniqueurs présents sur le plateau avec Raph à ma gauche.
Salut.
Tom à mon extrême gauche.
Salut, salut.
Yannou à la technique.
Salut.
Voilà, il a eu du mal à vous dire bonjour, mais il a réussi, c'est le principal. Et je vous rappelle aussi notre site internet, le www.aufondpresduradiateur.fr pour tous les podcasts, les infos concernant nos émissions, www.aufondpresduradiateur.fr. Une adresse mail pour nous joindre, pour nous envoyer des infos, aufondpresduradiateur, en attaché, en minuscule, sans accent, @no-log.org, aufondpresduradiateur@no-log.org. Donc ce soir, on reçoit le collectif Survie avec Mathieu et Étienne. Salut.
Salut.
Donc ils sont venus aujourd'hui, ça va être une grosse partie de l'émission, pour nous parler un peu de... en ce moment se tient un procès d'un des accusés de génocide du Rwanda, à faire attention avec les mots. Et donc c'était intéressant, je pense, c'est intéressant de reparler un peu de toute cette histoire de génocide au Rwanda, du rôle que la France y a tenu, du rôle que la France tient encore pour protéger certaines personnes qui auraient des responsabilités dans ce génocide. Donc effectivement, par ces temps où on nous parle beaucoup d'histoire, de migration, de tout ça, c'est une partie de l'histoire de la France dont on ne nous parle jamais nulle part. Donc c'est intéressant, je pense, il y a une grosse partie de cette émission qui sera consacrée à ce sujet. En fin d'émission, on vous parlera avec Yano d'événements qui sont intervenus au centre de rétention de Vincennes dans la nuit du 14 février avec des émeutes et des gens qui sont passés en procès, des gens de l'intérieur du centre de rétention qui sont passés en procès suite à ça, y compris de la prison. Donc on reviendra là-dessus à la fin de l'émission. Donc pour commencer sur le premier sujet, donc par rapport au Rwanda, Raph avait une petite phrase de Mitterrand, tout simplement, qui était donc président à l'époque du génocide rwandais, donc en 94.
François Mitterrand déclarait à ses proches, dans ces pays-là, un génocide, c'est pas très important. On peut rappeler quelques chiffres sur le génocide au Rwanda. Donc ça a lieu en 3 mois, de avril 1994 à juin-juillet 1994. Et c'est au minimum 800 000 morts, il me semble.
Ouais, tout à fait. Et pour reprendre un peu, comme tu as dit, un peu les mots, on peut utiliser génocide au Rwanda... par rapidité. Par contre, nous, on tient quand même à ce que les choses soient claires, parce qu'il y a des gens qui tiennent à entretenir la confusion. Nous, on parle de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, mais on peut dire génocide des Tutsis assez rapidement. Et voilà, tous les termes ont leur importance. Et peut-être on commence par là, peut-être sur un peu le contexte, le Rwanda déjà. Je sais pas si on n'a pas de carte à montrer à la radio, donc vous prenez l'Afrique, en plein milieu, il y a un énorme pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui s'appelait le Zaïre à l'époque. Et juste à droite, au milieu, il y a un tout petit pays, le Rwanda, qui n'était pas une colonie française, qui était une colonie belge, comme le Zaïre. Et les Belges sont arrivés je crois en 1930, je dis une bêtise.
Je crois qu'ils ont déjà pris en 1916 même la place après les Allemands, en fait, je crois, ensuite.
Et en fait, ce qui est important pour reprendre les mots de Tutsi et Hutu, à cette époque, les mots de Tutsi et Hutu... Donc on va dire, peut-être dans la suite de l'émission, utiliser ces mots-là, on tient à préciser, on ne se reconnaît pas dans cette appellation forcément, ce n'est pas des ethnies, en tout cas, on rejette ça. Et l'histoire même de ces mots est intéressante. À la base, ils arrivent dans un pays, les Belges, et il y a des groupes sociaux essentiellement, pas que, mais c'est à peu près ce qu'il y a de plus juste comme comparaison, qui sont appelés Hutu et Tutsi.
Comme des classes sociales.
En quelque sorte. Par exemple, on peut dire qu'il y a eu des choses comme au-delà de 10 têtes de bétail possédées par une famille, on considérait qu'ils étaient Tutsis. selon donc, voilà, le métier, etc.
Donc on est d'accord, aucun lien ethnique dans ces appellations.
Aucun, ils ont tous la même langue. Après, bon, on peut parler de manière générale sur ce que c'est qu'une ethnie. Oui. Moi, je pense qu'on peut aussi rejeter le terme. voilà, mais donc ils arrivent dans ce pays-là, ils vont jouer en fait les Belges et l'Église catholique, ça c'est important. Ils vont jouer sur cette division de mots, en tout cas de classe sociale, pour l'instrumentaliser en justement un clivage ethnique. Et ça, c'est un peu ça. On en arrive à l'apogée, c'est le début à 94 où il y a un génocide d'une de ces catégories. Qui a été créé à ce moment-là. Et donc, comment ça va se manifester ? Ils vont déjà produire toute une littérature, une administration basée sur ce qu'ils appellent les ethnies. Donc, et ils instaurent notamment en 1931 la carte d'identité, où est marquée sur la carte d'identité des gens de quelle ethnie ils sont, s'ils sont Hutus, s'ils sont Tutsis. Donc tout de suite, ça fiche quelque chose qui n'était pas figé comme ça à l'époque. On pouvait devenir Hutu, on pouvait devenir Tutsi quand on était l'un ou l'autre.
Ça arrive en 94 ou ça arrive avant ?
31.
En 31, donc voilà. Encore sous l'égide des Belges.
Ouais, complètement. Et donc en fait, au début, ça correspond quand même à une certaine élite sociale, les Tutsis.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notamment les Belges et l'Église catholique, dans leur idéologie un peu raciale, en fait, dans leur lecture raciale des choses, ils repèrent les Tutsis comme un peu comme une classe, enfin comme une race supérieure, du fait de leur trait physique, plus ou moins, et du fait qu'ils avaient une position peut-être sociale un peu supérieure, parce que c'était des éleveurs.
Qui avaient la noblesse, il y avait des choses comme ça. Et donc ils vont s'appuyer sur ce groupe-là pour gouverner. Et puis à peu près dans les années 50, ce groupe-là va, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, le Rwanda va connaître des mouvements avec des revendications indépendantistes, et à ce moment-là les Belges vont renverser leur alliance avec leurs ethnies qu'ils avaient contribué à créer, et plutôt que de s'appuyer donc sur le groupe qu'ils désignent comme Tutsi, ils vont s'appuyer sur les groupes qu'ils avaient désignés comme Hutu, et en les appelant à prendre leur revanche contre les Tutsis. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire on crée des catégories, et puis on va de plus en plus instrumentaliser ce clivage, de monter les uns contre les autres, pour mieux gouverner.
C'est pour mieux régner.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les Tutsis, justement, ils sentaient qu'ils avaient vraiment des velléités d'indépendance assez fortes. Alors peut-être étant donné qu'ils avaient peut-être pu recevoir plus d'éducation, plus d'informations, je ne sais pas exactement, mais voilà.
Du coup, c'était une question sociale, c'était effectivement l'élite de la société, qu'ils avaient plus d'éducation, et comme beaucoup d'élites nationales à cette époque-là, dans tous les pays d'Afrique colonisés, c'est là que va naître la revendication indépendantiste.
Et ouais, juste ce que je voulais dire, c'est que cette division, cette création de l'idée qu'il y aurait des races, la race des Tutsis, la race des Hutus, c'est quelque chose qui a été mis en place par le colonisateur allemand puis belge, qui s'est dit en fait, qui a vu que les Tutsis, quand ils sont arrivés au Rwanda, avaient une organisation sociale qui était très développée. Du coup, ils se sont dit, c'est pas possible que des Noirs ils puissent être aussi organisés. Donc, ils se sont dit dans leur tête, vu les théories raciales, racistes qu'il y avait en Europe à cette époque-là, ils se sont dit, ça doit être des gens qui sont venus de l'extérieur, et en fait, les Hutus seraient la population autochtone, et en fait, les Tutsis seraient venus de l'extérieur, et avec un statut, une race qui serait une race supérieure et venue de l'extérieur, qui aurait pu du coup s'imposer aux Hutus. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans la tête des colons à l'époque, et ce qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête des gens au Rwanda. Ça vient vraiment de là, quoi.
Et puis ça devient un facteur politique de gouvernance du pays, parce que à partir de 59, y a un président qui prend la tête du pays en jouant sur cet ethnisme. Et dès 59, il va y avoir en fait des pogroms à l'encontre des Tutsis qui vont devoir, qui en bonne partie au fur et à mesure, donc de 59 à 94, on va faire vite parce que c'est un peu long, vont en bonne partie s'exiler dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi. Et puis, c'est une dictature. C'est pas seulement une dictature ethnique, c'est aussi une dictature tout court. Ce qui veut dire que des gens qui sont même pas forcément désignés comme des ennemis parce que Tutsi vont pouvoir être désignés comme des ennemis et subir la répression pour leur positionnement politique, parce qu'ils sont démocrates, parce que tout ça. Et donc, en fait, on arrive à cette situation où il y a régulièrement des violences en interne à caractère ethnique. Des gens qui sont dehors, exilés. Et en 73, par un coup d'État, il y a le président Habyarimana, dont on va reparler pas mal dans l'émission, qui prend la tête et qui, lui aussi, instrumentalise l'ethnisme pour régner. Voilà.
En fait, ce qui a été mis en place par les colons à la base est repris par les dictateurs derrière. Ça fonctionne bien, quoi, finalement.
Ouais.
C'est à partir d'une organisation qui est sociale, en fait. Tu peux passer d'une classe sociale à l'autre. Les Hutus étaient plutôt cultivateurs. Tu pouvais devenir éleveur et devenir Tutsi, ouais, des choses comme ça. Et les colons l'ont transformé en vision raciale de la société.
Et à partir du moment où c'est sur ta carte d'identité, c'est quelque chose qui devient extrêmement figé aussi. Ça cristallise.
Il y a vraiment des mécanismes de discrimination à l'encontre du coup des Tutsis qui se mettent en place dès 1959. Et on voit un peu les prémices du Hutu Power dont on va parler ensuite, qui a un gros rôle dans le génocide, avec notamment Grégoire Kayibanda, qui publie en 1959 le Manifeste des Bahutus, sous la supervision du père Pérodin, qui était un archevêque et qui travaillait là-bas, et qui est un manifeste très très raciste et qui qualifie la population Tutsi de population étrangère, de race étrangère. Donc déjà, on a cette... Ces discriminations qui se mettent en place.
Bah oui, on va essayer de faire vite peut-être sur la suite parce que sinon on va se perdre un peu. Ce qui est important, bon là on va sauter à 90. En 1990 se constitue le FPR, le Front Patriotique Rwandais, donc qui est la branche armée d'un parti politique qui se forme en exil en Ouganda, avec des gens désignés comme Tutsi et donc qui ont fui là-bas, et puis des gens qui ne sont pas désignés comme Tutsi, qui sont plutôt désignés comme Hutu, et qui sont des opposants
au régime.
Et ils se constituent pour prendre le pouvoir par la force au Rwanda en voulant rétablir la démocratie, enfin établir tout court d'ailleurs la démocratie, etc. Enfin voilà, c'est pas un. Et puis aussi, ils ont comme grosse revendication le retour des réfugiés. Donc c'est pas un mouvement ethniste du tout. En tout cas dans son programme, contrairement aux autres, et puis qui a cette volonté d'imposer la démocratie par la force. Donc ça, on peut en discuter, mais bon. À partir de ce moment-là, donc là, ça crée une vraie menace contre le régime. Il y a des attaques du FPR qui mettent en péril vraiment la stabilité du régime, et à ce moment-là, le régime fait appel à l'assistance internationale, et on va y revenir beaucoup dans cette émission, c'est la France de Mitterrand qui répond présente.
La cavalerie.
Et va, voilà, tout à fait amener de l'aide. Donc on parlera après du rôle de la France. Donc dans cette période de 90 à 94, où le rôle de la France est vraiment clé, va se mettre en place, va se préparer progressivement. Il n'y a pas vraiment de début précis, mais la machine génocidaire qui va contenir à la tentative d'élimination totale des Tutsis en 1994. Donc là, il y a accélération des massacres, de propagande raciste, il y a une radio qui se crée, la radio-télévision libre d'Émile Colline, qui est assez célèbre, c'est tristement célèbre. D'une revue, il y a des partis, des groupes de milices civiles qui sont formés, des armes qui sont distribuées sur la faim, voilà. Et puis le 6 avril 1994, donc ça c'est assez connu en France, c'est peut-être si les gens connaissent rien du génocide, souvent s'ils connaissent un seul truc c'est ça, l'avion qui ramène Habyarimana de négociations de paix entre lui et le FPR, j'espère que j'ai perdu personne dans les sigles, et abattu alors qu'il revient d'Arusha où des accords de paix étaient signés. Et là, c'est le signal, alors il y a des discours assez troublants là-dessus, mais c'est le début à peu près, c'est le signal déclencheur, on va dire, du génocide qui, on insiste, était déjà en préparation avant. Et donc là-dessus, la frange extrémiste, du Hutu Power qu'a cité Étienne, va prendre le pouvoir par un coup d'État, va notamment assassiner la Premier ministre Agathe Uyu, j'ai écorché son nom, Uyu Willimana, je suis désolé pour elle, voilà, qui était au pouvoir, qui était modérée, enfin démocrate, on va dire. Et il y a un gouvernement intérimaire qui se forme dans l'ambassade de France, qui, lui, va prendre les commandes de l'État et mettre en place et réaliser le génocide. Voilà. Et donc, tu l'as dit, ça fait, c'est un génocide où donc les chiffres sont entre 800 000 et 1 million de Tutsis, voilà, qui sont désignés comme le groupe à éliminer. Et certes, comme on en parle souvent, il y a des gens qui n'étaient pas Tutsis, qui ont aussi été tués, notamment cette Premier ministre, notamment donc pour des raisons plus politiques.
Les opposants au régime.
Ouais. Voilà, de la même manière qu'il y a pu y avoir des gens qui n'étaient pas juifs, qui ont été tués lors du génocide des juifs.
Et donc, en fait, est-ce qu'on peut qualifier cette période de 90 à 94 comme une période de guerre civile ou c'est plus compliqué que ça ?
Au début, c'est ça, oui. En fait, c'est début octobre 90 que le FPR déclenche une guerre, en fait, vis-à-vis du pouvoir rwandais. Donc, du fait qu'il y a eu des revendications qui n'ont pas été acceptées de rapatrier, enfin, que les Tutsis puissent être rapatriés. Et du coup, on rentre un peu dans une... dans ce cas-là, on n'est pas vraiment dans une guerre civile. Là, à ce moment-là, on est... Enfin,
il y a une guerre civile en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des forces rwandaises armées qui s'affrontent. Mais le génocide est quelque chose de séparé de cette question. Il faut bien penser les deux choses de manière séparée. Il y a justement tout un discours révisionniste, négationniste, qui tend à... essayer de
minimiser
ça, puisque le présentant comme un effet de guerre, enfin il y a plusieurs, je sais pas si on aura le temps d'aborder le négationnisme ce soir, mais il y a plein d'idées comme ça qui tendent à introduire de la confusion pour ne pas dire qui sont les victimes, quel a été le plan, etc.
Oui, il y a des théories qui disent que ça aurait été quelque chose de spontané de la part de la population, que les gens seraient mis à massacrer les gens spontanément. Ou alors d'autres théories qui parlent de double génocide, qu'il y a eu un génocide des Tutsis, mais que aussi les Hutus ont été tués. Des choses comme ça. Nous, c'est pas notre propos ce soir. Vraiment, ce qu'on cherche à démontrer, ce qui a été démontré, c'est de dire qu'il y a eu un génocide qui a été pensé, organisé, contre un groupe désigné comme les Tutsis, et avec la complicité de la France.
Voilà. On va revenir sur la complicité de la France juste après une pause musicale.
L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain, ni métis, ni blanc, ni noir, le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis, au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre, sans me le demander, le Rwanda et la France m'ont tout donné, et m'ont tout pris, je veux être en paix, avec moi-même, et cela à tout prix, je slame des mots, moi, j'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs, de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite, Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite, la pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte, j'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître, j'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flow, métaphore que je manie, comme le feu la forge, ils ont partagé l'Afrique, à l'équerre, à l'écart, dans mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre, j'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison, ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région, un hommage à la paix, pour ce mort au combat, soldat inconnu, hasta siempre, Fred Ruigema, écoutez, nous ne sommes pas du même monde, vous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe. Plus long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas, sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles réfugiées, décimées, déracinées, dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé, pays de Gianga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de Lugamba, d'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin, j'en ai rêvé. Du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la pierre d'hydromel, Nyabarongo à tout jamais, tu es l'encre de ma plume et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur. On vient d'écouter un morceau de Gaël Faye featuring Djali dont on ignore le titre, mais voilà, c'était en lien avec ce dont on parlait. Donc
voilà, Gaël Faye, en fait c'est un Rwandais qui visiblement fait partie du CPCR, et du coup ce son explique un peu c'est un métis, mi-rwandais, mi-français. Ça explique ces deux parties de lui-même un petit peu.
Voilà. Donc, on est toujours avec l'association Survie, qui est en ce moment partie civile d'un procès sur un présumé génocidaire du Rwanda. Juste avant la pause musicale, on a parlé un peu du contexte. Avant de parler du rôle de la France, on va quand même rappeler que Survie, vous aviez une émission sur FPP, sur cette antenne Paris-France-Afrique, qui a duré environ de 2009 à 2013, si je ne me trompe.
À peu près.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement un peu votre activité en tant qu'association?
En gros, on travaille depuis... En fait, l'association s'est créée il y a maintenant 20-30 ans, quasiment. Et on travaille sur les relations franco-africaines pour faire cool. Et sinon, on travaille sur la France-Afrique. On fait tout un travail d'analyse pour essayer de décortiquer quelles sont ces relations, quelles sont les facettes obscures des relations entre la France et l'Afrique, et comment la France essaie de garder sa mainmise sur son ancien précaré de colonies africaines.
Et sur le sujet en fait d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un choc dans l'histoire de l'association qui est le Rwanda, le génocide des Tutsis. Les gens qui travaillent sur le sujet, notamment Verschave à l'époque, mettent en lumière que la France a soutenu les génocidaires qui ont commis le génocide des Tutsis en 1994. Dans l'histoire qu'on a essayé d'esquisser très rapidement juste avant, à peu près à toutes les étapes, à partir de 90, on retrouve la France aux côtés des génocidaires.
Avant, pendant, après ?
Avant, pendant et après.
Tu me disais surtout avant, dans la préparation.
Surtout avant, mais aussi après. Mais je disais surtout avant parce que c'est la période qu'elle a moins connue, en fait. Si les gens ont un peu entendu parler du génocide des Tutsis, ils ont peut-être en tête que la France est intervenue vaguement pendant le génocide, mais pas beaucoup plus. Et donc sur la période avant, à partir de 90, donc 90 à 94, le régime d'Abiyarimana est menacé par une rébellion, par un groupe armé qui s'appelle le FPR, et il appelle à l'aide, et donc la France répond présent. Et dès le début, donc elle va fournir de l'assistance, des armes à ce régime, qui déjà n'est pas démocratique, mais en plus s'appuie sur un clivage ethnique. Et elle sait dès le début que qui elle a affaire. Il y a par exemple en 1990 l'ambassadeur l'attaché de défense de l'ambassade, donc René Galigné, il parle de l'éventualité de l'élimination physique à l'intérieur du pays des Tutsis, 500 000 à 700 000 personnes par les Hutus, 7 millions d'individus. Bon, les chiffres sont pas bons, mais on voit que dès 90 la France sait à qui elle a affaire, à qui elle s'allie.
Ouais. Elle sait plus ou moins déjà ce qui va se passer, quoi.
Eh ben, on peut se questionner là-dessus sur à quel point elle sait ça précisément. En tout cas, elle va fournir de l'aide via une opération qui s'appelle Norrois. Puis il y aura une autre opération en 93 qui s'appelle Chimère, qui est un peu moins connue, qui va consister à apporter, à former en fait l'armée qui va connaître le génocide. Là, je le fais en résumé, mais c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que quand la France arrive en 90, il y a 5000 hommes dans l'armée rwandaise. Quand elle repart officiellement en décembre 93, parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment partie, ils sont 50 000. Donc elle a décuplé une armée qui, si la France n'était pas intervenue, se serait fait battre par le Front Patriotique Rwandais dont on parlait avant, par le FPR. Et donc, il y a de la fourniture d'armes, il y a de l'entraînement, dans les combats qui ont entre 90 et 94, les travaux français parlementaires qui ont étudié la question parlent d'un engagement français à la limite de l'engagement direct. Et notamment, à un moment, il est dit que certains militaires français ont été appelés à considérer qu'à travers la mission d'assistance opérationnelle qu'ils menaient, ils dirigeaient et commandaient indirectement une armée, en l'occurrence celle d'un État étranger. Donc pendant cette période-là, ça va même au-delà de ça. C'est pas seulement de l'entraînement de la fourniture d'armes, c'est que la France va commander cette armée dans son combat contre le FPR.
Et donc juste là-dedans, l'intérêt de la France, justement, c'est, on ne sait pas, c'est pas trop clair. Il n'y a pas une histoire de vente d'armes, d'intérêt politique, territorial.
Bah, peut-être qu'à cette époque-là, donc avant le génocide, hein, on peut se reposer la question après le génocide aussi et pendant, on peut penser, mais c'est que des hypothèses, que l'idée, c'est la France a ses nouvelles alliées, elle a envie de conquérir un nouveau territoire d'influence en Afrique, au-delà de ses anciennes colonies, puisque c'était la Belgique et non pas la France qui avait colonisé le Rwanda. Et il s'agit de tenir coûte que coûte ce nouveau régime ami qui vient de rentrer dans la grande famille de la France-Afrique. Bon, mais c'est qu'une hypothèse, il y en a d'autres. Et à la limite, il faudrait poser la question aux responsables politiques de l'époque. Pourquoi ils ont fait ça ? Donc il y a d'autres aspects de ce soutien français avant le génocide. Il y a aussi la participation au fichage et au contrôle de la population, et un fichage et un contrôle ethnique, notamment, il faut bien rappeler ça. Il y a la période des riches, je peux juste citer un truc, une citation donc, de monsieur Gérard Prunier, donc, qui est chercheur, et qui commente les propos de Michel Debarge, ministre français de la coopération. En 93, il y a une offensive du FPR qui est menée. Le pouvoir vacille et la France va venir soutenir ce pouvoir en place qui, lui, joue de l'ethnisme dans le même temps pour dire « Regardez, ces méchants Tutsis qui nous attaquent, il faut qu'on se défende. » Alors, Prunier écrit « Le 28 février 93, Debarge, ministre français de la coopération, arrive à Kigali et demande au parti d'opposition rwandais de faire front commun avec le président Habyarimana contre le FPR. » Dans un tel climat de tension ethnique, après les massacres des dernières semaines, puisqu'il y a des Tutsis qui sont massacrés à l'intérieur du pays à ce moment-là, cet appel à un front commun, forcément basé sur la race, est presque un appel à la guerre raciale. Donc voilà, on est en 93, et il parle, c'est un commentaire donc sur des propos d'un ministre français. Voilà, donc ça c'est, dans des très grandes lignes, un peu ce qu'on peut dire de la préparation, du rôle de la France aux côtés des génocidaires pendant la préparation du génocide. Peut-être on peut aborder, enfin je ne sais pas si vous complétez Étienne ou si on peut aborder sinon le rôle pendant le génocide.
Tu avais quelque chose à rajouter sur avant ?
Étienne, tu voulais dire quelque chose, non?
Non, tout à l'heure, c'est juste que je me demandais s'il n'y avait pas en fait un accord de défense signé entre la France et le Rwanda, sachant que la France, je crois que dès l'arrivée de Habyarimana, elle est déjà un peu présente au Rwanda, et c'est possible qu'il y ait eu un accord, sachant que la France passe beaucoup ce type d'accord avec d'autres pays africains, et dans ces cadres d'accords de défense, ben, en général, la France s'engage à défendre... le régime en place, donc ça peut être un des éléments d'explication qui fait que la France apporte aussi son soutien.
D'accord.
Enfin voilà. Bon,
Du coup, bah voilà, du coup peut-être passer à pendant au rôle de la France pendant le génocide. Donc la France, Raphaël.
Ouais, juste. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle un génocide en fait, parce que je crois qu'on l'a pas dit depuis le début de l'émission.
Alors c'est, il y a une définition, il y a plusieurs définitions très précises par des textes de loi, par des conventions de l'ONU. On peut retenir, je pense, dans les grandes lignes, que c'est un plan organisé. Qui vise à l'élimination partielle ou complète d'un groupe désigné, que ce soit un groupe ethnique, politique, non pas politique justement, religieux, national, ce genre de choses. Et voilà, qui peut prendre diverses formes, mais notamment il y a le meurtre de masse, le viol, le déplacement aussi, qui sont considérés comme des actes de génocide, quand l'idée est d'éliminer le groupe.
D'accord.
Et autre chose ensuite qui a été définie juridiquement, qui est assez intéressant, c'est la notion de complicité de génocide, qui pareil peut avoir différentes définitions. Et bon voilà, c'est en général ça va être l'apport de l'aide de quelqu'un, tout en sachant vraiment que voilà. Que ce quelqu'un a le plan d'exterminer toute une population. Certaines définitions vont même dire que même le fait de pas aider, enfin d'être sur place, de savoir la chose et de ne rien faire est une complicité de génocide.
Alors qu'on a la possibilité d'arrêter le génocide et qu'on ne fait rien, voilà, c'est une complicité passive. Voilà.
Et ce qu'on dit, c'est que justement, la France était très liée au pouvoir génocidaire au Rwanda et qu'elle avait justement la possibilité d'arrêter ce génocide aussi et qu'elle a fait plutôt l'inverse. Hein.
Ouais, et puis.
La complicité passive. Quoi.
Ouais, ouais, sur certains faits, il y a plus que de la complicité passive. Voilà, quand on fournit des armes, quand on fournit de l'entraînement, quand on fournit de la protection aux génocidaires, on va y revenir. Alors qu'on sait qu'ils viennent de commettre le génocide, là, on est en droit de se demander, au moins au niveau moral et probablement aussi au niveau juridique, si ce n'est pas plus que de la complicité passive.
Et donc, pendant le génocide, la France, elle n'est plus au Rwanda ?
Eh bien, si. Donc, officiellement, normalement, l'opération d'assistance à l'armée rwandaise
est terminée.
Se termine en décembre 1993. Le génocide a lieu, commence en avril 1994, mais d'une part, apparemment, il y a des coopérants militaires qui restent sur place. Il y a des gens qui sont très très proches de l'état-major rwandais qui restent sur place. Et puis, de toute façon, la France va mener deux opérations au moment du génocide. Une première qui s'appelle Amaryllis, qui a théoriquement pour but d'évacuer les ressortissants français. Une deuxième qui s'appelle l'opération Turquoise, qui commence, je ne sais plus quand précisément, mais qui a pour but, elle, de s'interposer normalement, d'être une mission humanitaire en tout cas. Et on va voir justement, ces missions-là ont été plus loin qu'un rôle humanitaire. Le rôle de la France commence déjà, on a dit tout à l'heure que le début du génocide, alors tout le monde a retenu l'attentat, mais surtout, c'est ce qui compte derrière, parce qu'il y a des présidents qui se font abattre, qui meurent de manière criminelle ou accidentelle dans des pays, et ça mène pas forcément à un état fasciste ou génocidaire derrière. Là, ce qui se passe, c'est que il y a un groupe extrémiste qui prend le pouvoir et forme un gouvernement intérimaire qui va mener cette politique génocidaire. Ce gouvernement intérimaire, il se forme dans l'ambassade de France. L'ambassadeur de l'époque se gosse, dit « Ah, c'est la première fois que je forme un gouvernement
!» Ah, mais il a formé un bon gouvernement.
Il a formé un bon gouvernement. Donc voilà. Vas-y, pardon.
Juste pour dire quel aspect il a pris ce génocide, en fait. Il a pris un aspect, en fait, c'est la participation de masse de la population au génocide encadrée par les militaires et les élites sociales proches du pouvoir extrémiste qui encadraient en fait, qui incitait la population, un mot plus fort que ça, incitait la population à commettre le, à tuer ses voisins en fait, et qui encadrait,
qui organisait un génocide populaire entre guillemets, mais c'est... pas que. Enfin, faut, on a souvent l'image aussi d'un génocide trop, enfin on a trop souvent l'image de manière trop prépondérante d'un génocide populaire à la machette. Faut bien rappeler que derrière, il y a une armée qui fait pas que encadrer, qui tue. Avec des armes conventionnelles, avec des grenades, avec des armes... Oui, tout à fait. Y a la garde présidentielle, il y a les forces amérindiennes qui sont les deux éléments militaires principaux. Je ne sais plus quelle est la proportion, mais en, la part de personnes tuées à l'arme à feu dans ce génocide est bien supérieure à celle de personnes tuées à la machette. Donc c'est important aussi à rappeler. C'est, pas
ça, c'est quelque chose que je ne savais pas.
C'est-à-dire que massivement, c'est des exactions qui ont eu lieu par des militaires. Quoi.
Ouais,
c'est
ça qui est important. Ou par des milices civiles armées d'armes à feu.
D'accord.
Et puis, il faut le dire, comme tu disais, le mot incité est peut-être trop faible, parce que c'est... Il y avait aussi vraiment les Hutus qui ne participaient pas, les Hutus qui voulaient s'opposer un peu à ça, ils risquaient aussi leur vie. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs de Hutus opposants ou qui ont essayé de protéger des Tutsis ou qui se sont fait eux aussi massacrer. Donc en effet, il y avait aussi toute une logique où on mettait la population dans la peur. Donc c'est voilà, pour contrecarrer un peu ce mot populaire.
Et c'est je sais plus qui est-ce qui a employé cette image-là de l'homme récipient, en gros, que tu instaures la peur ou la terreur, donc la peur des Tutsis, et donc que tu encadres militairement la population et qui devient un peu vide de l'intérieur, et ensuite tu peux déverser l'idéologie que tu veux à l'intérieur. Et cette idéologie qui était diffusée, qui venait du pouvoir en place, quoi, et qui était une idéologie génocidaire d'extermination d'un autre groupe social.
En fait, il y a un bon bouquin de Servenay et Périès qui parle en fait de ce qui s'est passé au Rwanda. Et ce que tu décris là, c'est en fait l'application de théories militaires de contrôle de population très très spécialiste, enfin dont la France est spécialiste, c'est la doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle et la guerre révolutionnaire qui a été mise en place en Algérie, qui a été développée en Indochine et puis après exportée un peu partout. C'est des principes de base, l'encadrement de la population contre un ennemi intérieur qui en l'occurrence est désigné comme le Tutsi. Et quand ça rencontre une idéologie racialiste, ça mène à ce qu'on a eu. Et il y a d'autres...
Pardon. Vas-y.
Non, enfin, je voulais parler aussi d'autres aspects du soutien français
vas-y,
au génocidaire pendant le génocide.
Il y a juste aussi la banalisation de l'acte de tuer aussi, qui est important dans un génocide et qui est, on arrive à le banaliser complètement par la propagande continue et répétée. Et même après, on appelle ça le travail. Enfin, c'était appelé comme ça, il me semble. Faire le travail, finir le travail ou quoi.
Ouais,
le travail bien fait ou je sais pas quoi.
La fameuse radio des Mille Collines qui émettait donc les messages pendant le génocide en félicitant les groupes de tel endroit qui ont bien travaillé aujourd'hui. Ou attention, dans telle zone, il reste beaucoup de travail à faire. Alors, selon les termes, il reste beaucoup de cafards qui se trouvent à cet endroit-là. Enfin, voilà. C'était ces mots-là qui étaient employés. Et j'en reviens à la France, c'est que en plein génocide, des médias comme ça sont des vecteurs importants de la réalisation du génocide, qui encadrent les massacres en cours. Et la France n'a pas fait ce qu'elle aurait pu faire, ce qui est reconnu par les militaires eux-mêmes. Elle n'a pas coupé, par exemple, les émissions de cette radio, alors qu'elle en avait les moyens. Bon, ça va plus loin aussi sur d'autres faits, c'est-à-dire que l'opération qui est censée... le premier avion de l'opération turquoise n'évacue pas des ressortissants français, il évacue les VIP du génocide. C'est-à-dire il va évacuer le premier avion français, des membres du gouvernement intérimaire rwandais, dès que la défaite de ce camp-là se profile, va leur fournir un asile. Et on verra, toute l'opération turquoise va en bonne partie avoir comme mission d'exfiltrer donc ces gens soit vers la France, soit vers des pays européens ou africains, et puis par la terre, d'en faire sortir vers le Zaïre. Et on verra après les conséquences de cette sortie. Mais donc là, on est dans une complicité donc, qui est bien plus lourde, parce qu'on sait cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'ils étaient en train de préparer le génocide. Là, ils viennent de le faire.
Ils l'ont déjà fait, ça y est.
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment qu'on les... on les sort, on les met à l'abri. Notamment, bah, y a une personnalité emblématique qui, comme ça, a été sortie du Rwanda très, très tôt et qui, depuis ce temps-là, vit des jours paisibles en France, sans papier, et elle, apparemment, ça ne pose pas de problème.
C'est bien seule.
Voilà, c'est Agathe Abiarimana, c'est la veuve, ouais, la veuve donc, du président Abiarimana, qui est au centre de l'appareil idéologique génocidaire. Voilà, entre autres. Et puis, un autre aspect beaucoup plus pragmatique, il y a la livraison d'armes. C'est-à-dire, on a parlé de la livraison d'armes avant le génocide, mais il y a des livraisons pendant le génocide. C'est-à-dire, le 8-9 avril, il y a des témoignages qui disent que l'opération Amérilis livre des armes au camp des forces qui commettent le génocide. Il y en a d'autres qui sont apparemment... Il y a des témoins qui témoignent le 19 avril et jusqu'au 18 juillet de 6 livraisons d'armes donc via Turquoise, la deuxième opération française. Donc là, c'est pareil. On est pendant le génocide et la France continue
d'amener des armes
avec ses missions qui sont censées être des missions humanitaires. Et donc, d'amener des armes pour le camp génocidaire.
Bah ça, c'est quand même un...
Oui, justement, c'est présenté comme une mission humanitaire. Et ça rappelle... Enfin, souvent, quand l'armée française intervient en Afrique ou dans d'autres pays, c'est présenté comme une mission humanitaire.
La France ne fait que des opérations humanitaires en Afrique, c'est bien connu. Hein. Officiellement, je crois qu'il
n'y
a jamais eu autre chose. Hein. Ils n'ont jamais ramené rien d'autre que des provisions, de quoi vivre. Ça, ouais. Ça paraît évident, les armes ont dû apparaître, tomber du ciel ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc sur le rôle de la France pendant, globalement, on a fait à peu près le tour.
Moi, j'avais juste un truc à rajouter en plus, c'est la BNP, je ne sais plus ce que ça veut dire BNP, donc la banque BNP Paribas, quoi, actuellement. Donc une des plus grosses entreprises françaises, une des plus grosses banques françaises. En juin 1994, donc pendant le génocide, autorise le retrait de 30 millions de francs ou d'euros, je ne sais plus, mais de 30...
C'est pas lourd,
hein. Ouais, de 30 millions de dollars par le régime... par le régime génocidaire qui s'en est servi pour acheter des armes. Et donc, ces transactions sont passées par Paris. Et donc...
Il y a eu un aval à ce moment-là pour les autoriser. Tout à fait.
Donc, ce soutien, au final, il est financier, il est matériel, il est moral.
Il est diplomatique.
Il est diplomatique. Donc, finalement, c'est un vrai soutien, quoi.
Et puis, alors, peut-être c'est là où on parlera un peu de l'après et puis des suites.
Il devient judiciaire, même, après.
Il devient... il y a des cas, en fait, où on se demande s'il n'a pas été plus direct aussi. C'est l'objet de certaines plaintes que nous on porte, voilà. Peut-être on en parle après. Il y a aussi d'autres aspects à discuter sur la mise à l'abri des génocidaires après le génocide aussi.
Alors on va revenir après une pause musicale là-dessus, et puis on viendra aussi du coup sur le procès qui est en train de se dérouler, qui se déroule au tribunal de grande instance de Paris.
Aux assises.
Ouais. Donc, mais c'est au TGI de Paris, sur l'île de la Cité, du 4 février au 14 mars. On revient après une pause musicale sur STP 106.3.
We'll be right back.
chiens dans plein les toits. Et puis serrer les rangs, crever les rois devant les caméras. Que les patrons effrontés, porteurs de costumes onéreux, puissent enfin admirer toute l'animosité des coléreux. Faites ravaler aux arrogants, leurs serre-autins et conquérants, leurs comptes courants embourrés à force de contrats et plans véreux. Puis bomber le torse, croiser le fer, arrêter les tyrans. Faites appeler les bourreaux et étirer la potence pour eux. Les places et lieux déshonorés, dévorés par la pénurie. Quand il s'agit d'abroger le travail bassement rémunéré, ou à présent élaboré, labyrinthe et intempérie. Pour chaque fois enterré, parachute dorée, supercherie. Alors pourquoi obtempérer, obéir à la porcherie, rester hors jeu, hors champ, marcher en se cachant, imiter les jurons, le dos rond, contenir la furie. On ne cherche pas la dignité au fond d'un panier fleuri. Comment garder forme humaine quand la rage te domine? Quelle ivresse et la migraine malmènent tes neurones? Chaque seconde compte, chaque seconde compte. Sur l'ardoise, la bête que l'on arrose d'insultes lorsqu'on la croise. L'erreur sur la prise, la faute dans la phrase. Et je suis prié de crever sans crier quand on m'écrase. J'ai pas droit aux excuses, encore moins à l'extase. Et à peine relever la tête si un jury m'accuse. Hier j'étais l'esclave, aujourd'hui je suis l'épave à la dérive sortie de sa cave et qui manque de savoir vivre. On me traite comme un pauvre qui aurait la vie sauve. Me préfère malhonnête plutôt que de me savoir pauvre. C'est dire comme on me méprise au vu de ce qu'on me refuse. Partout ma présence semble une parfaite intruse. Et j'use et abuse des chances qu'on me propose. Je suis la violence insoumise et sans pause. Et je marche sur les braises que les bonnes gens attisent. Et on me tape dessus pour être sûr que ma leçon est apprise. Comment garder forme humaine quand la rage te domine? Que l'ivresse et la migraine malmènent tes neurones? Chaque seconde compte, chaque seconde compte.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur tous les mardis 19h-20h30. Je vous rappelle notre site internet le www.aufondprèsduradiateur.fr pour les podcasts, réécouter nos émissions ou bien nous envoyer des infos au fond près du radiateur en attaché en minuscule sans accent @no-log.org. Donc on est en train de parler un peu du génocide de Rwanda. On est en train de parler du rôle de la France avant le génocide, pendant le génocide. Et donc là on voulait parler de ce que la France a continué à faire après le génocide pour on va dire notamment couvrir les différents présumés génocidaires. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit et donc voilà, donc revenir là-dessus et puis après parler effectivement du procès.
Donc on est avec Mathieu Etienne de l'association Survie et on vous laisse la parole.
Ouais, sur l'après, en fait, bon, là, comme sur ce qu'on a dit avant, franchement, on n'aura pas le temps de tout aborder, donc voilà, on vous renvoie à la doc un peu plus tard. Mais intéressez-vous vraiment au sujet, en tout cas. Si
c'est
vous
très vaste.
Pas d'être convaincu direct par tout ce qu'on vous dit, là, allez creuser vous-même. Et...
À la fin du sujet, on vous donnera un peu quelques liens, quelques bouquins à vous procurer si ça vous intéresse et vous voulez vous documenter plus.
Et donc, ouais, sur la, après le génocide, on a parlé vite fait d'exfiltration des génocidaires, on y reviendra parce que c'est l'objet de, notamment de plaintes. Mais il y a juste un fait qui, je pense, est assez important, c'est qu'une bonne partie de l'appareil génocidaire, je l'ai dit, il est exfiltré vers le Zaïre voisin, qui est devenu RDC aujourd'hui, qui est tristement célèbre par le conflit quasi permanent qui l'anime depuis, avec beaucoup, beaucoup de morts. Et cette histoire du génocide des Tutsis au Rwanda n'est pas sans lien avec ce qui se passe actuellement. Notamment, ces génocidaires, quand ils sont protégés dans leur retraite par l'armée française, passent la frontière avec toutes leurs armes, reconstituent leur organisation dans des camps de réfugiés, à tel point qu'en 1994, Médecins sans frontières se retire des camps, pour ne pas cautionner ça. Voilà. Après encore cette phase, la France va continuer à soutenir ces gens en exil. C'est-à-dire les gens, on sait vraiment qu'ils ont continué le génocide, on ne les désarme pas, on leur apporte un soutien après. Voilà. Je voulais juste mentionner ça parce que ça ouvre une porte un peu plus sur... c'est un des aspects à comprendre sur ce qui se passe actuellement au Congo. Il y en a d'autres, c'est notamment le Rwanda va instrumentaliser aussi d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui cette histoire pour justifier son intervention au Congo. Voilà, je voulais juste creuser cette piste, ça mériterait beaucoup plus que ça. Mais
On va rappeler aussi que on a fait une émission avec vous il y a quelques semaines, c'est le 17 décembre dernier, notamment sur l'intervention française en Centrafrique, donc allez sur nos sites internet si... Voilà.
On parlait de l'intervention française au Mali surtout, parce que vous avez publié un livre qui analyse un peu les dessous de cette intervention qui s'appelle « La France en guerre au Mali, enjeux et zones d'ombre ». Donc achetez-le, il n'est pas cher et tout, il est à 8 euros il me semble. 7 euros, encore moins cher. Et pour dire aussi que la France s'était appuyée sur ses bases militaires qu'elle a en Centrafrique à ce moment-là pour entraîner aussi... pour réentraîner les génocidaires qu'elle avait déjà entraînés auparavant. Elle les a entraînés dans des bases militaires en Centrafrique aussi.
Ouais. Sur la suite, après le génocide, ouais. Mmh. Ouais.
Et donc elle a permis, un des rôles de l'opération turquoise a été de permettre aux génocidaires de s'exfiltrer, de s'en sortir indemne, de quitter le pays. Et donc actuellement, quelle est la situation de ces gens? Et ils n'ont pas été jugés. Il y en a certains qui ont été jugés, il me semble.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, beaucoup se sont exfiltrés dans des pays occidentaux. Et du coup, il y a eu en effet pas mal de gens qui ont bien sûr notifié ça. Et il y a une recherche de justice qui se fait. Par la suite, que ce soit par des rescapés Tutsis ou par d'autres gens, que ce soit en France, en Belgique, même en Allemagne, qui cherchent aussi la justice et la vérité. Donc je ne sais pas combien en tout il peut y avoir de plaintes dans tout le monde, mais en France, je sais qu'il y a eu en tout 26 plaintes déposées depuis la fin du génocide, dont la première aboutit à un procès cette année. Enfin, c'est la première.
C'est la première plainte qui a été posée, qui aboutit aujourd'hui à un procès.
Non, c'est pas ça. C'est la première qui aboutit, c'est pas la première lancée. Ouais.
Donc voilà. Donc au bout de, donc finalement, il faut 26 plaintes pour qu'aujourd'hui on en arrive là.
Et puis c'est même un peu un accident parce que la première qui a été déposée, c'était en 95. Celle-là n'est toujours pas passée en procès. Mmh. Là, celle qui vient d'être passée. C'est un peu un accident. On espère que là, apparemment, il y a des moyens. Enfin bon, je te laisse continuer. Mais en tout cas, non, c'est pas, ça marche malheureusement pas comme ça.
Pour montrer aussi un peu à l'international, ailleurs, il y a eu, ailleurs en Europe, par contre, il y a eu des procès avec notamment Hollande, en Suède, différents pays. Certains génocidaires présumés sont passés en procès.
Alors aujourd'hui même, il y a eu une plainte un procès qui a abouti en Allemagne. J'ai plus exactement le nom de la personne là. C'est paru dans un journal ce génocidaire rwandais a écopé de 14 ans de prison là en Allemagne.
D'accord.
Donc ça c'est une plainte qui a abouti aujourd'hui. Il y en a eu d'autres en Belgique. Je sais pas exactement combien. Il y a eu. Il faut aussi notifier le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été créé en 95, je crois, en Tanzanie, et qui a lui aussi mené différents procès qui ont amené certains génocidaires à être punis,
condamnés,
notamment Théonest Bagosora, si je ne me trompe pas, qui était un militaire, un des principaux aussi membres du cercle idéologique en fait du Hutu Power.
Qui était à la tête de l'armée qui a commis le génocide.
Voilà. Et sinon, aujourd'hui, du coup, on peut revenir un peu sur le procès qui est en cours.
Je peux me permettre. En fait, toi, tu parlais justement, tu pointais le décalage qu'il y a entre les premières plaintes et le premier procès aujourd'hui. Nous, on est partie civile dans beaucoup de ces procès, pas tous. Donc, il y a des procès contre des génocidaires, des personnes accusées de génocide.
Dans toutes ces plaintes, finalement, vous êtes partie civile, mais
pas toutes. Pas sur les accusés de génocide, les Rwandais, on n'y est pas tous. Sur toutes. Par contre, nous, on a la spécificité d'avoir poussé et porté des plaintes contre des responsables français. Notamment des plaintes contre X, X étant des militaires français dans plusieurs dossiers où il y a eu apparemment des viols, de la participation à des actes de génocide, ou je vais pas rentrer dans le détail de tous les dossiers, il y a cela. Et puis cette année, on a déposé une nouvelle plainte contre Baril, qui était le gendarme de l'Élysée, le très proche de Mitterrand.
Paul Baril.
Voilà, Paul Baril. On a déposé plainte, pour notamment des contrats d'armement qu'il aurait honoré auprès de l'appareil génocidaire et pour lequel il y a eu des preuves qui sont sorties dans la presse. Donc là, on a du biscuit, on va dire. Disons que c'est risqué pour nous. Si on se lance dans une procédure en justice qui n'a pas suffisamment d'éléments pour faire condamner les personnes, on n'aura pas de deuxième chance. Du coup, il faut qu'on attende qu'on ait ce genre d'éléments qui sortent, qui soient béton.
On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, sur toutes ces plaintes.
Le parquet a fait appel de nombreuses fois de notre constitution de partie civile, de la validité des différentes plaintes. C'est ça le comportement global qu'on constate, c'est plutôt ça. Il y a une spécificité de la justice française qui continue, encore aujourd'hui, de refuser l'extradition de personnes accusées de génocide présentes sur le sol français vers le Rwanda pour y être jugées. Et donc, cette année, on a eu peut-être on peut revenir, je te laisse revenir sur Simi Kangwa, ce procès qui a lieu en ce moment, qui lui est presque un accident de parcours, mais aussi apparemment le début d'un déblocage des choses au niveau des procès en France.
Donc en fait, une sorte d'accident de parcours. En fait, c'est en 2008 que le Rwanda émet un mandat d'arrêt international contre Pascal Sibi Kangwa.
Qui était à l'époque du génocide.
Alors, qui était en fait à l'époque du génocide, enfin avant le génocide, il était membre des services de renseignement. Pendant le génocide, c'est un peu plus trouble. C'est quelqu'un qui a été un peu, selon certains, une éminence grise aussi, un idéologue, qui a écrit pas mal de livres, qui a soutenu des médias, qui a écrit dans des médias, extrémistes. Qui a un rôle présumé, en tout cas très fort dans le génocide. En 2008, le Rwanda émet un mandat d'arrêt qui est lancé ensuite par Interpol. C'est pour un acte d'accusation de fait de génocide. Et à cette époque-ci, en fait, il est présent à Mayotte. Il se cache à Mayotte sous un autre nom d'ailleurs que Pascal Sibi Kangwa. Il va se faire choper entre guillemets à Mayotte pour des faits de comment on appelle de trafic de faux papiers.
Donc pas du tout rien à voir avec le génocide quand il se fait arrêter.
Donc non, c'est à première vue non. Et puis il est sous un faux nom, donc les gens ne voilà. Mais il y a une enquête qui se met en place et on découvre que c'est ce fameux Pascal Sibi Kangwa qui est sous un mandat d'arrêt international. L'extradition en effet vers le Rwanda, ce que demandait le Rwanda est refusé. S'enchaîne un peu du coup différentes tractations et il est décidé qu'il soit jugé du coup à Paris, parce que c'est à Paris que au TGI, enfin au tribunal de grande instance, que sont jugées les plaintes pour fait de génocide. Ça arrive en 2009. En 2009 où Survie et d'autres associations comme la FIDH ou la LDH se portent partie civile.
Et le CPCR surtout, je pense que c'est important de les nommer. Gaël Faye qu'on a entendu en début d'émission là, est membre de cette association.
Donc, CPCR, c'est quoi? C'est les initiales de quoi?
Collectif des parties civiles pour le Rwanda. Voilà. Et dont le rôle essentiel est de repérer les personnes qui auraient participé au génocide, qui sont sur le sol français, et de mener des actions en justice. Parce qu'en fait, c'est grâce à ces associations, je pense que c'est important de le dire, que les choses avancent en justice en France, et pas grâce au parquet, pas grâce à l'État, qui lui freine des cas de fer, pour que la justice œuvre sur ces cas-là. Faut quoi, on en reviendra peut-être après, mais justement, en ce moment, il faut reconnaître que ça bouge. Mais, voilà.
En effet, ça bouge bien. Et du coup, après les instructions, les juges ont ordonné du coup, la mise en accusation et donc le début du procès. Ils ont demandé ça en mars 2013. Et le procès a commencé le 4 février dernier. Il doit durer jusqu'au 14 mars. Donc ça fait 6 semaines de procès, et, durant lesquelles y a beaucoup de témoins qui vont venir, beaucoup de gens qui viennent pour témoigner.
Ce Sibi Kangwa, il est libre ou il est en prison actuellement ?
Il est en prison en fait depuis 4 ans, justement pour le trafic de faux papiers, et depuis en préventif, parce que c'est quelqu'un qui a vécu en clandestinité une bonne partie de sa vie après le génocide, et donc le juge a estimé qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'il pourrait fuir si jamais il était laissé en liberté, même s'il est en fauteuil roulant. Ça peut paraître bizarre quand on voit dans les médias, ça comprend pas trop, mais il est en fauteuil roulant depuis 92, et ça l'a pas empêché d'échapper.
Là, ça ne l'a pas empêché de s'enfuir.
Et du coup, le procès là se déroule. Donc c'est assez intéressant pour nous. On essaie d'être assez présent. Le CPCR est très présent. Il a d'ailleurs mis un site en ligne sur lequel vous pouvez un peu suivre vraiment l'avancée de ce procès.
Tu peux nous donner l'adresse mail ?
Oui, alors le site, c'est procès-génocide-rwanda.fr. Procès avec un S, de toute façon c'est écrit avec un S.
Au pire, vous tapez CPCR, je pense, sur un moteur de recherche, vous tomberez dessus.
Vous pouvez tomber dessus. Alors, ils font des comptes rendus des différentes séances qu'il y a, des petits articles, des billets d'humeur, faire le suivi de... Alors, justement, parmi les personnalités qui sont passées, il y a des choses très intéressantes. Notamment, et justement pour revenir un peu sur la complicité de la France, on voit des témoins de la défense qui viennent pour le défendre, certains sont français. On a notamment eu la semaine dernière un colonel français, le colonel Robardet, qui est venu pour défendre Pascal Sibi Kangwa. C'était un passage assez intéressant. J'ai peut-être quelques citations à donner, mais en fait, pour poser un peu ce contexte, alors ce colonel en fait était présent au Rwanda à l'époque, pas pendant le génocide, mais avant. Il était présent, il était là pour assister la police judiciaire, pour former les gendarmes à des méthodes judiciaires.
Notamment le fichage,
notamment le renseignement, tiens, quand même.
Voilà, pour le renseignement. Alors il y a peut-être aussi des choses par rapport à tout ce qui est interrogation en fait, parce que justement une des choses, c'est que Pascal Sibi Kangwa, il est accusé d'avoir été un tortionnaire, d'avoir effectué beaucoup de tortures. C'est un surnom qu'on lui donne, il a vraiment cette réputation d'être un tortionnaire. On peut se demander un peu le rôle qu'a pu avoir aussi ce colonel dans la formation des gendarmes. Bon, ça c'est un peu une autre question. Mais voilà, toujours est-il qu'il est venu défendre Pascal. C'est assez intéressant. Il suit vraiment. En fait, il est dans une optique un peu révisionniste en fait, comme on a pu en parler tout à l'heure. Il y a pas mal de gens qui défendent des thèses différentes. Sur le génocide des Tutsis, et lui il est un peu de cette branche là alors il y a d'autres gens comme ça en France qu'on pourra citer,
et du coup un journaliste, Pierre Péan,
allez-y, donnez les noms.
Non, mais pour le dire, il y a beaucoup de gens de la classe politique de l'époque qui ont propagé l'idée de plusieurs génocides pour dire il y en a eu un, mais en fait il y en a eu un dans l'autre sens, donc vous voyez,
c'était la
on peut
guerre
pas vraiment
civile,
prendre donc, part d'un côté ou de l'autre. Non, il y a eu un unique génocide,
il n'y a pas de guerre propre, tous ces arguments
ou ça va plus loin que ça, ça va vraiment plus loin que ça. Il y a tout un clan en France qui a tenté de montrer que l'attentat qui aurait été d'après eux la raison du génocide, alors non, il y a eu une préparation avant, il a été commis par, d'après eux, par le FPR, donc ça serait les Tutsis, donc les Tutsis seraient presque, au final, responsables de leur propre génocide, vous comprenez ? Voilà, donc, il y a notamment le juge Bruguière ou Pierre Péan, qui sont porteurs, il y en a beaucoup d'autres, de ce genre de théorie fumeuse. Et donc Robardet, à son témoignage, lui, il a accrédité la thèse du double génocide, c'est-à-dire qu'il a fini par avouer du bout des lèvres que oui, il reconnaissait qu'il y avait eu un génocide des Tutsis, après plusieurs questions du président, du procureur et des avocats, de nos avocats. Mais après, il a dit, mais bon, vous voyez, moi, ça, je ne sais plus comment il formule ça exactement, mais ça me révolte qu'on parle de génocide pour les Tutsis, mais que pour les Hutus, on parle que de crimes de guerre, etc. Donc lui, il continue de donner du crédit à cette thèse révisionniste, négationniste, du double génocide. Il faut dire que c'est quelqu'un dans ses prises de position passées qui a pris fait et cause, enfin qui a complètement adopté à l'époque l'idéologie racialiste en parlant de Khmer noir pour désigner les Tutsis, en adhérant complètement au fait que les Tutsis, enfin en ayant une lecture complètement ethniste de ce qui se passait au Rwanda. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'en a jamais démordu. En ce moment, ils sont un peu le vent tourné, donc il a été obligé de reconnaître devant un tribunal qu'il y a eu un génocide, parce que, et c'était celui des Tutsis, parce que bon, c'est pas condamné. Vous avez le droit aujourd'hui de nier le génocide, contrairement à celui des Juifs. C'est pas condamné par la loi française, mais il a bien senti que s'il se faisait choper au tribunal en train de le nier, ça
passerait pas bien.
Ça passerait pas bien.
Alors il le nie pas, mais par contre, pour lui, c'est pas quelque chose d'organisé. Il défend que c'est un génocide spontané, en fait.
Il le relativise, quoi.
Donc il relativise les choses, et en effet, comme le disait Mathieu, il dit que c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est pas dû du pouvoir Hutu, mais c'est une défense vis-à-vis du FPR. Quoi.
C'est une guerre civile, quoi. Il parle plutôt de guerre civile.
Voilà, il parle plutôt de guerre civile. Alors, une petite citation, par exemple, parce qu'en fait, du coup, cet homme a mené des enquêtes dans les années 90. Il était plus ou moins missionné aussi par l'armée française de mener, en fait, une campagne médiatique aussi, une contre-campagne médiatique vis-à-vis du FPR. Alors ça, il y a d'ailleurs un passage du livre de Pierre Péan, je crois, qui donne des choses comme ça, parce qu'il a écrit, en fait, il a participé à écrire, à aider Pierre Péan à écrire un de ses livres, et où il est dit, voilà, le colonel Delors a demandé au colonel Robardet d'apporter un soin tout particulier à la collecte d'informations sur les massacres et les exactions du FPR, afin de mieux contrecarrer la propagande du FPR. Donc voilà, ça c'est un passage du livre de Pierre Péan.
Donc juste pour rappeler que le FPR c'était en fait l'organisation armée des Tutsis qui était exilés en dehors du Rwanda et qui souhaitait réintégrer le...
Enfin des opposants, voilà, des personnes qui ont été persécutées parce que Tutsis et puis des opposants qui n'étaient pas Tutsis, désignés comme Tutsis mais qui ont été des opposants au régime.
Et qui ont fini par arrêter quand même le génocide en juillet 1994, qui ont pris voilà. Kigali et qui ont mis un stop au génocide.
Ouais, ça c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire que la France intervient en tant que lourdement armée avec l'opération Turquoise pendant le génocide, mais c'est pas là du tout la France qui arrête les génocides. Elle protège les génocidaires. Et c'est le FPR qui arrête le génocide. Ça c'est, on peut dire ce qu'on veut sur le régime de Paul Kagame, il était à la tête de l'armée qui a mis fin au génocide. La France. Nous, enfin, on va dire nous.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais voilà, l'État français, en tout cas, lui, est celui qui a soutenu le camp génocidaire. Il faut toujours, à chaque fois, c'est un autre contre-feu médiatique. On peut, oui, le FPR a commis des crimes, le régime de Paul Kagame aujourd'hui n'est pas démocratique, mais il ne faut pas perdre de vue l'important, je pense, enfin, le plus grave, c'est que la France a été complice du génocide et a appuyé complètement les génocidaires.
Et justement, il y a des responsables militaires, des officiers, des hauts gradés qui étaient militaires et qui ont participé à l'opération turquoise, qui sont encore en poste aujourd'hui, notamment celui qui dirigeait l'opération Serval au Mali, je ne sais plus son nom.
Ouais, Grégoire de Saint-Quentin, qui n'était pas dans Turquoise, je crois qu'il était là présent avant. Il y a lui, il y a beaucoup d'autres. L'actuel responsable du renseignement militaire ou de la coopération militaire au ministère des Affaires étrangères, je ne sais plus, est un ancien aussi du Rwanda. Enfin, c'est comme après l'Algérie, les gens qui sont mouillés dans cette histoire n'ont pas du tout été écartés de l'armée, bien au contraire. Et juste pour revenir, on citait tout à l'heure Péan, qui est un des piliers de la divulgation de théories négationnistes et révisionnistes, et en tout cas qui essaie de protéger le rôle de la France des yeux des médias, de l'opinion publique. C'est important de noter que le 1er janvier 2014, il a reçu la Légion d'honneur de la part donc du gouvernement Hollande. Voilà. On a remarqué aux dernières commémorations en 2013 qu'il n'y a quasiment rien eu de dit, de fait, de la part du gouvernement français pour marquer le coup sur le génocide. Et là, un des premiers signaux publics envoyés, c'est de décorer Péan de la Légion d'honneur. Donc ça en dit long sur un peu le positionnement que peut avoir.
Bah, militairement, ils sont toujours en place. Et politiquement, j'ai l'impression que finalement, c'est toujours la même famille qui est aussi.
Il y a eu des évolutions, il faut reconnaître. On va finir par, par se faire lyncher, mais Sarkozy a fait avancer des choses. Voilà. S'il y a des choses en ce moment qui avancent sur les dossiers judiciaires, c'est parce qu'il a créé un pôle génocide et complicité et crimes de guerre contre l'humanité. Donc c'est des juges et des parquetiers qui sont intégralement dédiés à ces crimes-là. Bon, voilà, c'est lui qui l'a fait. Désolé.
Ça, c'est dit.
Après, voilà, on constate que le pouvoir socialiste a plutôt... par contre, contrairement à ses prédécesseurs avant Sarkozy, ne met pas de bâton dans les roues de la justice, ce qu'on peut constater, c'est déjà ça, entre guillemets. Mais voilà,
Après, ouais, ce que tu disais en off aussi, c'était que maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée en décembre et qui interdit à tout parti civil, c'est ça ?
En fait,
remettre en cause des actions l'action des militaires, c'est réservé au parquet, du coup.
Voilà, tout à fait.
Militaires français à l'extérieur.
C'est la loi de programmation militaire qui est passée en décembre, qui a été votée sans aucun souci à l'Assemblée nationale.
Ça s'adresse à vous directement, enfin, indirectement à vous, mais il n'y a que vous dans cette situation, plus ou moins que vous dans cette situation.
Ouais, en fait, l'idée, c'est que depuis cette loi, il n'est plus possible à des associations, à des victimes de crimes, de porter plainte contre des militaires français. Enfin, l'action judiciaire ne peut être déclenchée que par le parquet, donc que par l'État lui-même. Et bon, c'est pas forcément indépassable, mais en tout cas pour l'instant, ça nous interdit d'ouvrir des plaintes contre d'autres plaintes contre des militaires français dans cette histoire, comme dans d'autres. Ouais.
Et ce qu'on peut dire, parce qu'il va falloir qu'on termine sur ce sujet-là, qu'on passe au dernier sujet de l'émission, il nous reste un quart d'heure, c'est que ce procès-là, c'est un peu une première. C'est une première en France, c'est la première fois qu'un génocidaire est jugé en France. Mais que ce n'est pas le seul et qu'il y en a d'autres, et notamment des hommes politiques français qui ont été impliqués dans le génocide, dans la complicité de génocide. Et ça serait bien de citer des noms, par exemple Alain Juppé, qui était ministre à l'époque.
Ouais, surtout Hubert Védrine, qui était, parce que toute cette politique a été mise en place par l'Élysée essentiellement. Il y a un rôle très très fort des élites militaires, mais il y a aussi l'Élysée. Et à l'époque, c'était Mitterrand, qui était très mal en point au niveau santé. Et c'est probablement Hubert Védrine qui avait beaucoup plus de pouvoir à cette époque-là. Donc c'était le secrétaire général de l'Élysée. Et c'est quelqu'un qui est encore très très bien vu, très bien en cours dans les réseaux socialistes actuels.
Pour terminer, tu voulais rajouter quelque chose pour terminer sur le procès, non ? Ce qu'on peut, on peut terminer peut-être par rappeler donc que vous avez un site internet, Association Survie, vous appelez Survie sur
survie.org.
Survie.org, voilà, vous aurez des informations sur le procès, sur le Rwanda, sur la France-Afrique en règle générale.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques livres, quelques bouquins à se procurer sur le sujet ?
Ouais, il y en a un que je conseille vraiment, qu'on édite, on fait des réductions en ce moment, vous nous contactez via survie.org, il y a nos coordonnées, tout ça. C'est la complicité de la France dans le génocide de Tutsi au Rwanda, 15 ans après, 15 questions pour comprendre. Donc il a été écrit il y a 5 ans, aujourd'hui ça fait 20 ans. On mène une campagne cette année, on mènera plusieurs mobilisations, notamment dans la rue le 5 avril. On voudrait faire un événement sur toute la France. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos groupes locaux, donc à Paris, parce que bon, FPP c'est Paris.
Partout dans le monde.
Il y a un groupe local, voilà, survie-paris.org. On a réédité aussi un livre très récemment de François-Xavier Verschave qui, dès septembre 94, je crois, ouais. Écrit dans ce livre-là ce qu'il sait et pense de la complicité de la France aux côtés des génocidaires. On l'a réédité parce qu'il était épuisé, donc n'hésitez pas, c'est un livre un peu historique sur la lutte, finalement, pour la connaissance de cet épisode et sur la vérité, la justice sur le rôle de la France.
Il y a un livre aussi de Alison Desforges, non, qui est un peu une référence. Je ne sais pas si on peut le citer.
Il y en a plein. Il y a plein de bouquins que je vous conseille. Mmh, ouais. Je peux que vous renvoyer au site parce que ça va être un peu long de les citer.
D'accord.
Allez pas voir les bouquins de Péan, je crois.
Non, allez pas voir les bouquins de Péan. Enfin, vous pouvez les. Non, à la limite, lisez-les avec un œil critique. Quoi. Mmh. Vraiment, celui-là, les bouquins de Guichawa aussi, il faut les lire avec un œil critique. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Stephen Smith. Enfin, voilà. Ça, c'est des gens qu'on. Qu'on vous incite. Enfin, lisez d'abord les nôtres. Hein.
C'est vrai que ça a l'air d'être plus intéressant.
Vous faites un journal aussi qui paraît tous les mois qui s'appelle Billets d'Afrique et d'ailleurs.
Tout à fait.
On peut s'abonner, pour soutenir l'association aussi. Mmh. On peut le trouver sur internet aussi, sur le site de Survie.
Ouais.
On peut juste
s'abonner.
Ouais, c'est sûr. Et on peut rappeler le site en fait, du CPCR consacré au procès actuel. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse internet?
procès-génocide-rwanda.fr.
Voilà, on vous remercie d'avoir été avec nous pour parler de tout ça. Revenez quand vous voulez. On fait une petite pause musicale.
Et vous pouvez réécouter aussi la dernière émission qu'on a fait avec Survie sur notre site internet, au fond, près du radiateur, où on parle de manière plus générale sur qu'est-ce que c'est que le système de la France-Afrique et qui est très intéressante. Réécoutez-la. Voilà.
On se retrouve après une pause musicale.
La politique France-Afrique. C'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa. C'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur. On vient d'écouter un morceau de Tikenja Fakoli, France-Afrique, le morceau tout simplement, qui était bien. On voulait vous rappeler aussi par rapport, on vient de recevoir donc l'association Survie, on vous a donné pas mal de bouquins que vous pouvez acheter pour vous renseigner là-dessus. Aussi, on vous ramène à écouter toutes les émissions qu'on fait sur Vie, l'émission Paris France Afrique, qui sont écoutables sur Internet.
Sur afriradio.net.
Afriradio.net, voilà. Donc vous avez toutes leurs émissions. Donc si l'histoire de la France Afrique vous intéresse, la vraie histoire, parce que elle est pas facile à trouver. Et ben donc afriradio.net, vous pouvez réécouter toutes les émissions. Tout de suite, on va passer au deuxième sujet de cette émission pour terminer l'émission. Vous savez que dans cette émission, on a beaucoup suivi ce qui a pu se passer dans le centre de rétention de Vincennes, l'incendie qu'il y a eu en 2008, etc., etc. Et il y a eu un événement dans la nuit du 14 février, il y a eu des émeutes dans le centre de rétention.
Voilà, alors c'est quand même deux époques différentes entre 2008 et aujourd'hui 2014. Il s'est passé plein de choses et d'ailleurs il s'en passe beaucoup moins aux abords du centre de rétention de Vincennes. Et la solidarité avec les gens qui sont retenus à l'intérieur en tout cas se fait moins sentir. Et c'est vrai qu'à l'époque en 2008 et même bien avant, on avait l'occasion vraiment de relayer pas mal déjà la parole des retenus qui étaient enfermés entre ces quatre murs. Et puis même pas mal de collectifs et d'assauts se bouger pour manifester devant, pour créer des liens entre l'intérieur et l'extérieur, histoire de savoir vraiment ce qui se passe dans ces endroits sombres de la République, entre guillemets, hein, où vraiment aucune caméra n'est autorisée à rentrer, où la seule parole viable, en tout cas, qu'on nous sert, c'est la parole des flics qui y travaillent, et très peu même des autres travailleurs, comme certaines associations y travaillent à l'intérieur. On a moins aussi les infos qui nous parviennent de ces gens-là, même si parfois, en plus, ils collaborent d'une certaine manière avec la police présente à l'intérieur. En tout cas, on sait que c'est des endroits où il se passe des choses pas franchement cool du tout. Et c'est aussi ça le revers de la médaille de la France coloniale aujourd'hui, quoi. Hein. C'est un peu ce que subissent ces gens qui essayent d'arriver, notamment du continent africain, en France, et le sort qui leur est réservé, franchement, est pas très reluisant, puisque généralement, c'est des arrestations en pleine rue, des rafles, hein, même, on peut appeler ça comme ça, des expulsions sommaires, et entre ces deux moments, un séjour dans des prisons, dans des centres de rétention. Donc là, on va parler de celui de Vincennes. C'est un centre de rétention qui est assez particulier puisqu'il est situé donc dans le bois de Vincennes. Il est situé juste à côté d'une école de police. Donc c'est vraiment un espèce de lieu laboratoire de plein de nouvelles techniques de maintien de l'ordre dans des lieux clos, dans un lieu d'enfermement. Et c'est un laboratoire aussi en termes de gestion des flux migratoires, puisque c'est un centre très moderne avec plein de caméras de vidéosurveillance et très aseptisé en règle générale. Et donc ça permet justement aux gens qui sont dans cette école de police de tester tout un tas de nouvelles choses. Notamment, on avait vu aussi l'emploi de brigades canines la nuit, enfin voilà, des techniques bien particulières. On avait parlé en 2008 donc d'un grand incendie qui avait ravagé la plupart de centres de rétention à l'époque, sous le coup de la révolte de centaines de détenus qui s'étaient révoltés suite à la mort d'un des leurs en juin 2008. Ils avaient accusé concrètement les flics et la direction du centre de ne pas avoir agi et d'avoir laissé cet homme mourir malade dans sa cellule. Et ça avait créé pas mal de remous autour. La solidarité, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait à l'extérieur à l'époque, avait permis un peu de mettre sous le feu des projecteurs les pratiques qui se passent dans ces centres de rétention, qu'on peut aussi appeler des prisons. C'est des lieux d'enfermement où il y a plein de cas de maltraitance qui sont proférés. Et c'est clair que ça avait permis à ce moment-là un peu de faire la lumière autour de ça. Aujourd'hui, on n'entend quasiment plus parler de ce qui se passe à l'intérieur. Justement, par divers réseaux de solidarité, comme les listes rétention et les listes sans papier ni frontières, on apprend que dans la nuit du 14 février, y a eu une révolte pour empêcher tout simplement un retenu d'être expulsé vers l'Algérie. Une cinquantaine de ces co-retenus ont vraiment essayé de tout faire pour l'empêcher de se faire expulser. Donc c'est vide cassé, vidéosurveillance, caméra de vidéosurveillance cassée aussi, porte dégondée. Il y a eu vraiment pas mal d'affrontements avec les flics visiblement. Et tout ça, justement pour empêcher un retenu de se faire expulser. Il faut savoir que dans ces lieux-là aussi, les principales actions qui s'y déroulent de la part des retenus, c'est des actions de désespoir la plupart du temps, c'est de l'automutilation, c'est des tentatives de suicide, c'est des grèves de la faim généralement. Donc c'est vraiment, donc là on est dans une autre sorte d'action collective. Et en même temps, voilà, c'est simplement pour empêcher cette réalité quotidienne de s'abattre sur leur tête que bah, les gens qui sont enfermés agissent de la sorte. Nous, ce qu'on voulait dire, déjà, tout simplement, c'était bah, qu'on était solidaires de ces révoltes. Parce que c'est bien de le dire, personne ne l'est, tout le monde le camoufle. En tout cas, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux autorités françaises. Et c'est bien de rappeler que oui, ces gens-là ont toutes les raisons du monde de se révolter. Et la première de ces raisons, c'est simplement d'obtenir la liberté. Voilà, après, on pourra revenir sur l'indélinquance ou pas. Mais alors, le fait de ne pas avoir de papier dans un État, pour le coup, réclamer la liberté, pour nous, ça nous semble totalement cohérent.
Juste rapidement, est-ce que tu sais si du coup il y a eu des suites par rapport à ces émeutes, si des gens ont été inculpés?
Ah là, je vais y venir rapidement parce que on continuera d'en parler en tout cas
sûrement la semaine prochaine.
Sûrement la semaine prochaine et sur cette antenne, je pense aussi. Donc il y a deux personnes qui ont été condamnées, en tout cas qui ont été mises en garde à vue suite à ces révoltes et qui sont passées hier en comparution immédiate donc au tribunal correctionnel de Paris et ils ont écopé de 2 mois ferme chacun, dont un qui a écopé de 2 mois de sursis en plus pour refus de prélèvement ADN alors que tout le monde se fait prélever son ADN en arrivant au centre, que c'était simplement un refus en garde à vue alors qu'il l'avait déjà. Bref, voilà l'absurdité encore une fois de la justice, hein, expéditive à certains moments et qui prend des dizaines et des dizaines d'années avant de juger bah, des vrais coupables comme on en parlait pour le génocide du Rwanda juste avant. Et donc bah, voilà, on va continuer d'en parler. À côté de ça, il y a eu quelques actions de solidarité qui sont manifestés. Il y a notamment aussi bah, 2 personnes qui sont en détention préventive pour une action de solidarité qui a eu à l'extérieur du centre. Donc tout simplement, ce que je vous conseille pour un peu se renseigner sur le sujet et continuer de voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est d'aller sur un site internet qui s'appelle Sans Papiers ni Frontières. Voilà, vous tapez ça sur internet. Et puis bah, d'écouter aussi leur émission qui est sur cette antenne le premier vendredi de chaque mois de 19 à 20h30 sur FPP 106.3. Et puis un autre site aussi francophone sur lequel vous trouverez pas mal d'informations, c'est Getting the Voice Out. Et bien sûr, on vous le rappelle sans cesse, il y a des cabines téléphoniques publiques dans ces centres. Vous pouvez très facilement trouver les numéros sur internet et puis contacter bah, les personnes qui sont enfermées pour en sortir les informations voilà, des premiers concernés.
Voilà. Rajouter aussi que bah, effectivement je pense que c'est une des meilleures armes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est aussi de rentrer en contact avec les gens à l'intérieur pour savoir ce qui se passe réellement, essayer de faire sortir l'information, parce que à l'intérieur d'une prison comme le sont les centres de rétention, bah, le manque d'informations à l'extérieur, et ben c'est la force aujourd'hui du pouvoir en place, et c'est la force qu'ils ont pour pouvoir se permettre tout le genre d'exactions voilà, qui peuvent commettre. Et puis que on, sur cette histoire, notamment d'émeutes, etc., machin, on sait que c'est par rapport à une expulsion. On ne connaît pas non plus effectivement tous les détails de comment ça s'est passé. Et voilà, il y a toujours une raison. Et quand on est effectivement dans ces centres de rétention et qu'on subit tout ce qu'ils subissent déjà, eh ben on
se dit qu'ils en ont 15 milliards
des raisons. Voilà, ils en ont 15 milliards des raisons et que ça devait sûrement être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme ça avait été le cas avec la mort, c'était une grosse goutte d'eau, hein, la mort d'un des retenus en 2008. On doit s'arrêter maintenant cette émission au fond près du radiateur pour laisser la place à Zéro Hebdo. On vous remercie, on remercie le collectif Survie d'avoir été présent avec Étienne et Mathieu.
Et merci à vous.
Et puis, bah, de rien. Et puis, on remercie aussi le collectif Rétention pour toutes les informations et tout le travail qu'ils font par rapport à la rétention et qui permettent voilà, d'avoir quelques petites infos sur ce qui se passe à l'intérieur.
Les numéros des cabines, ils sont disponibles sur Sans Papiers ni Frontières, on vous rappelle.
Ou sur RESF.
Sur RESF aussi.
Voilà, et ben nous c'est au fond près du radiateur, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés, on fait une grosse dédicace à ceux qui luttent, à ceux qui sont derrière les barreaux, à ceux qui taffent au charbon et voilà, qui nous écoutent régulièrement. Le site internet www.aufondprèsduradiateur.fr, l'adresse mail aussi pour nous aider à construire cette émission, c'est au fond près du radiateur @no-log.org. Nous c'est la semaine prochaine 19h, entre temps il y a la rediff à 7h du matin vendredi. Voilà.
Bon courage.
Bon courage.
Zéro et
ciao.
Ciao.